à la une ce soir.
L'intervention, malheureusement, mal virée. Et malheureusement, Mme Maureen Bureau, sergente à la Sûreté du Québec, elle est décédée de ses blessures.
Une policière tuée, un suspect abattu, c'est le choc à Louisville.
Bien, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar.
Incendie dans le Vieux-Montréal, les 7 victimes identifiées, une survivante nous raconte.
Nous, on était au deuxième, donc là, c'est comme l'équivalent de quasiment 10 mètres. On est descendu, on a traversé la rue, puis bam, genre, tout le deuxième étage où on était était en feu.
Budget fédéral, cap sur l'énergie propre et l'aide aux personnes à faible revenu.
Le nouveau remboursement pour l'épicerie compensera la hausse des prix.
Voici votre fil de la journée. Bonsoir. Elle s'appelait Maureen Bro, 42 ans. Elle était policière depuis 2002 à la Sûreté du Québec. Hier soir, la sergente affectée au poste de Masquinongée a accepté un quart de travail en temps supplémentaire. Il faut dire qu'il lui restait seulement 4 jours à la patrouille avant d'accéder à sa promotion comme enquêteur au crime majeur. La sergente Bro n'est jamais rentrée chez elle. Elle a été tuée en service. Je retrouve ce soir à Louisville ma collègue Marie-Michel. Donc, Maureen Bro et son partenaire répondaient à un appel, Marie-Michel, pour des menaces et du grabuge hier soir aux alentours de 20h30 et tout a dégénéré rapidement.
Oui, on n'a pas les circonstances exactes de ce qui s'est passé, mais selon plusieurs sources, Marie-Christine, Mme Bro s'est présentée effectivement pour un appel derrière moi à l'intérieur du bâtiment pour mettre en état d'arrestation un suspect dans une histoire de menace. Et au moment de procéder à l'arrestation du suspect, eh bien, celui-ci aurait pris un couteau, une arme blanche, dis-je bien, aurait asséné un violent coup de couteau au crâne du partenaire de Mme Bro. Celui-ci a été blessé grièvement, mais on ne craint pas pour sa vie. Et par la suite, le suspect a violemment attaqué Mme Bro. Il aurait poignardé. Mme Bro, par la suite, aurait été projetée du deuxième étage. Et malheureusement, elle a perdu la vie. Ce sont des circonstances épouvantables. Mmh. Et là, présentement, sur le terrain, bien évidemment, t'as le bureau des enquêtes indépendantes, puisqu'il y a eu mort d'homme, parce que le suspect dans cette histoire a rapidement été abattu par d'autres policiers qui étaient tout près de la scène de crime. Alors, le BEI enquête sur cette affaire. Il y a également le volet criminel qui enquête sur la mort de Mme Bro. Ça, c'est le SPVM qui prend en charge cette enquête-là. Et c'est une onde de choc. On parle de Mme Bro comme étant une policière d'expérience, aimée de tous, qui avait une joie de vivre. C'était une mère de 2 enfants âgés de 10 et 12 ans. Son conjoint était également policier à la Sûreté du Québec. Alors, c'est la consternation dans le milieu policier. On écoute Patrice Cardinal, suivi de M. Jacques Pinchoux.
Un événement semblable, ça nous rappelle l'élément suivant. C'est que le danger est toujours présent, mais aussi l'imprévisible est toujours possible. Donc, c'est un rappel de sécurité qu'on veut faire à nos membres. Il faut toujours avoir ces aspects-là en tête lors de nos interventions. Ça touche l'entièreté des policiers de la Sûreté du Québec qui sont en deuil présentement. Je le dis, c'est en famille qu'on va passer au travers. Nous, on va trouver le moyen d'honorer adéquatement, bien sûr, Maureen. Bien sûr, dans le respect des volontés de la famille. Ça, c'est une priorité.
On se sent dévasté par ce type de nouvelles. On est pleinement conscient que notre travail comporte des dangers. Mais lorsqu'on est confronté à la réalité comme aujourd'hui, on est dévasté.
Et Marie-Michel, le suspect là, dans cette affaire était connu pour avoir des troubles mentaux?
Oui, connu auprès des policiers, connu également auprès de ses proches pour avoir des troubles des troubles mentaux, notamment de schizophrénie. Il avait souvent des psychoses, me dit-on. Il s'agit d'Isaac Brouillard Lessard, 35 ans, qui aurait été abattu donc par les policiers hier soir. Il a été déclaré non criminellement responsable dans plusieurs dossiers depuis 2014, au moins à 5 reprises, pour des histoires de voies de fait, de menaces. Et les gens sur le terrain ici et amis, parce que j'ai parlé à quelques amis de M. Brouillard-Lessard, me parle d'un homme qui était violent, qui était très impulsif, qui avait des problèmes également de consommation de cannabis et d'amphétamines, de speed. Alors, évidemment, il y a une enquête qui est en cours. Ça se poursuit, une enquête qui sera longue, évidemment, parce qu'il y a une policière qui est morte en service. Ça fait 6 policiers morts au Canada depuis le début de l'année en service.
Oui, d'autres réactions un petit peu plus tard dans le bulletin. Marie-Michel, merci beaucoup.
Je vous en prie, au revoir.
Et puis les témoignages de sympathie affluent, vous le comprendrez, sur les réseaux sociaux à la suite du décès de cette policière. Tant la communauté policière, justement, de partout au pays que le milieu politique ont partagé leur tristesse.
Je vais offrir mes condoléances aussi à tous les policiers, toutes les policières au Québec. Je les offrais ce matin à mes gardes du corps. On oublie trop souvent que ces gens-là sont courageux, qui nous protègent et qui ont un métier qui est risqué.
Les policiers méritent notre respect et je veux sincèrement dire encore une fois jusqu'à quel point, si vous avez à rencontrer, à parler à un policier aujourd'hui, dites-lui merci.
Cette tragédie nous rappelle que pour protéger nos vies, ils mettent leur vie en danger.
J'aimerais offrir mes sympathies aux proches de Maureen Brault.
C'est un drame qui ravive de douloureux souvenirs à la famille du policier Thierry Leroux, 26 ans, mort en service en 2016 lors d'une intervention à Lac-Simon, en Abitibi-Témiscamingue. On voit des images au lendemain du drame. Il y avait eu une marche. Bref, je retrouve ce soir le père de Thierry Leroux, Michel Leroux. Bonsoir.
Bonsoir à vous.
D'abord, comment vous avez réagi lorsque vous avez appris le décès de la sergente Brault?
Un peu d'émotion, mais beaucoup de colère. Beaucoup de colère. Puis là, avec ce que je viens d'entendre concernant l'individu en lui-même, cette colère n'est pas prête de s'atténuer. Là. Ça va être très difficile de la garder puis de la refouler à l'intérieur de moi-même.
Oui, parce que qu'est-ce qui devrait être fait, selon vous, pour améliorer, justement, la sécurité autour de ceux, donc, qui mettent leur vie en danger, parfois même au quotidien? Je parle des policiers. Évidemment, le risque zéro n'existe pas, mais qu'est-ce que vous souhaiteriez, vous?
Bien, vous savez, lorsque y a les gens ont des antécédents connus, on parle de... c'est un peu comme dans le cas de Thierry, des antécédents connus, des milieux médicaux, des milieux policiers. Comment se fait-il qu'on adresse seulement les éléments... on ne touche pas les éléments fondamentaux. On s'adresse seulement aux causes immédiates. L'élément fondamental là-dedans, c'est pourquoi qu'un individu qui a des antécédents comme ça, il est reconnu d'être violent, dangereux pour lui-même, dangereux pour son entourage. Comment se fait-il qu'il n'est pas hospitalisé et gardé sur surveillance? Et c'est là que je me demande, ça va prendre combien de morts pour qu'on puisse attaquer ce dossier difficile de la maladie mentale, qui est une des causes fondamentales des événements qui se passent aujourd'hui, puis qu'on puisse l'adresser et minimiser les impacts pour nos policiers, même s'ils sont outillés, bien malin celui qui va prédire la réaction d'un individu en crise lorsque les policiers doivent intervenir ou les paramédics. Ouais. Donc, intervenir dans une situation critique comme celle-là.
Mais est-ce que les policiers, les patrouilleurs sont assez formés, justement, pour faire face à ce type de clientèle-là?
Personnellement, on a beau les... Je pense qu'ils sont de plus en plus outillés. On demande à nos premiers intervenants d'être plus travailleurs sociaux que policiers dans l'ancien mode qu'on a connu. Cependant, comme je disais tantôt, bien, c'est difficile pour eux autres d'imaginer quelle tournure de l'événement, l'imprévisibilité que ça va prendre lors de l'intervention. On beau les former, mais nul n'est tenu au miracle. On ne sait pas comment ça va virer. Et un individu en crise, comme vous l'avez vu dans plusieurs des interventions, ça prend plus qu'un policier pour être capable de le maîtriser. Là. Alors, c'est ces gens-là qui sont connus, qui ont des antécédents. Ben, moi, je pense que si on veut vraiment protéger nos premiers intervenants, là, ben, il faut les garder hospitalisés, même si ça va à l'encontre de leur gré. Puis, comme ça, on va protéger l'individu, son entourage, sa famille, mais aussi ceux qui devront intervenir lorsqu'ils auront des appels d'urgence
Bien, écoutez, M. Leroux, merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner ce soir, parce que oui, ça ravive une colère chez vous, mais certainement une grande peine, vous qui avez perdu votre enfant dans des circonstances tragiques. On a évidemment une pensée pour la famille de Maureen Brault ce soir, toutes nos sympathies, et merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner ce soir.
Si vous me permettez, j'aimerais également transmettre mes plus sincères condoléances à la famille du sergent Brault. On leur envoie toute la dose de courage qu'on est capable de leur envoyer, qu'ils s'entourent bien, pour lui permettre de... Vous savez, la vie, c'est pas un fleuve tranquille, là, mais là, ils vont vivre des raz de marée assez épouvantables dans les jours et les semaines qui vont suivre, qu'ils soient bien entourés. Un bon rétablissement également à son coéquipier, parce que lui aussi, il va vivre des moments difficiles, puis à toute la communauté policière. Et sachez que la randonnée du souvenir, lorsqu'on va partir le 17 août, on va avoir une pensée pour vous autres.
C'est bien dit. Merci beaucoup, M. Leroux, d'avoir été avec nous.
Bien, ça me fait plaisir. Bonne fin de journée.
On va aller à Ottawa maintenant. La ministre des Finances, Chrystia Freeland, a déposé son budget. Pour décortiquer tout ça, je retrouve notre collaborateur, Chris Nardi. Bonsoir, Chris.
Bonsoir, Marie-Christine.
Donc, on parle d'un budget qui renouvelle avec les déficits à long terme, avec des dépenses élevées, notamment en énergie verte.
Effectivement, on ajoute 50 milliards de dollars en termes de déficit sur les 5 prochaines années quand on compare à ce qui a été projeté à l'automne. Alors, on était supposé de renouveler avec le surplus 5 milliards presque de surplus dans 5 ans. C'est plutôt 14 milliards de déficit qu'on va avoir dans 5 ans. Alors, la part du lion de ces dépenses-là, Marie-Christine, c'est en santé et en énergie verte. L'énergie verte, alors, on a investi massivement dans le réseau électrique. Alors, ce que le budget dit, c'est qu'avec l'avenue des énergies vertes, bien, on va avoir besoin de 2 à 3 fois plus de production d'électricité d'ici 2050. Donc, on investit 25 milliards de dollars pour améliorer le réseau électrique à travers le pays, en plus d'une foule de crédits de taxes pour les énergies vertes en général à travers le pays.
La santé, on parle quand même de 30 milliards en nouvelles dépenses sur 6 ans, là.
Effectivement. Alors, un peu plus de 20 milliards pour les transferts en santé. On en a beaucoup parlé, évidemment, dans les derniers mois, eh bien, ça se concrétise dans le budget. Mais il y a aussi le plan de soins dentaires. Alors, c'est cette partie de l'entente entre les libéraux et le NPD pour garder les libéraux au pouvoir. Bien, on a appris aujourd'hui que ce plan-là dentaire, le prix double. Alors, on ajoute 7 milliards aux 6 milliards qui étaient déjà prévus, mais les délais restent les mêmes. Alors, ce sont les enfants qui en profitent pour l'instant de moins de 12 ans et les adultes avec un revenu de 90 000 pour le domicile au complet qui seront éligibles en 2025. Alors, c'est vraiment juste la facture qui a beaucoup ballonné et ça ajoute évidemment au déficit.
On parle de 11 millions aussi de Canadiens qui vont pouvoir s'attendre à recevoir des chèques du fédéral pour contrer l'inflation?
Effectivement. Alors, c'est un chèque, c'est une augmentation essentiellement du retour de la taxe sur les services fédéraux. Pour une famille de avec deux enfants, par exemple, Christine, on parle d'environ 460 $ un chèque, essentiellement comme plusieurs provinces le font, mais au niveau fédéral, qui leur sera envoyé cette année. En plus de ça, Marie-Christine, il y a plusieurs initiatives aussi pour augmenter les revenus du gouvernement ou réduire les dépenses. Alors, une nouvelle façon de calculer des impôts qui devraient surtout toucher les plus nantis, ceux qui gagnent 300 000 $ et plus. Bien, cette initiative, ce changement dans le système d'imposition devrait ramener 2,5 milliards de $ dans les 5 prochaines années. On veut aussi couper dans les dépenses, Marie-Christine. On a surtout ciblé les dépenses, on en a beaucoup parlé, chez les consultants. Alors, les consultants, on veut réduire ces dépenses-là et les coûts de voyage sur les 7 prochaines années de 7 milliards de $.
Oui, un autre budget, donc, écrit à l'encre rouge. On va analyser tout ça un petit peu plus tard avec Yves Boisvert. Merci beaucoup, Chris.
Un plaisir. Bonne soirée.
Maintenant, le ministre fédéral avait promis d'encadrer le travail des enfants et c'est maintenant chose faite avec le dépôt du projet de loi 19. Simon, le ministre n'a pas cédé aux pressions des représentants du milieu de la restauration et du commerce au détail et fixe l'âge minimal à 14 ans.
Oui, les deux domaines que tu viens de nommer, Marie-Christine, demandaient initialement des exceptions. Hein. On sait que le commerce au détail, restauration, des domaines qui sont particulièrement touchés par la pénurie de main-d'œuvre. Et puis, bien, d'avoir des jeunes, là, souvent de moins de 14 ans, qui sont prêts à travailler après les heures d'école, bien, ça les aidait. On souhaite encadrer ça de manière plus serrée, selon le ministre du Travail. Donc, un nombre d'heures maximal de 17 heures travaillées par semaine pour, évidemment, les jeunes qui sont âgés de 16 ans et moins. 10 heures aussi qui peuvent être effectuées du lundi au vendredi, une limite qui va s'appliquer d'ailleurs à partir du 1er septembre 2023. Il y a des exceptions, évidemment, dans la loi du ministre Boulay pour, entre autres, le gardiennage d'enfants, l'aide aux devoirs, tout ce qui est camp de jour, colonie de vacances, pratiques artistiques aussi, et le travail effectué dans une entreprise familiale qui compte moins de 10 salariés. Et pour le ministre Boulay, c'était important parce que c'est une manière, entre autres, de s'attaquer au phénomène du décrochage scolaire.
Il y en a qui me rapportaient des cas où des employeurs... arrive le matin, puis on a un employé X, Y ou Z qui est absent pour des raisons de maladie, puis il texte l'enfant à l'école, puis l'enfant quitte sur l'heure du midi pour aller travailler l'après-midi. Donc, il décroche pas nécessairement, mais il y a un impact sur sa concentration, sur sa capacité d'avoir des résultats académiques qui sont plus à la hauteur de son potentiel, puis sans penser à son développement socio-affectif aussi, là.
Simon, Québec solidaire, qui talonnait le ministre sur son projet de loi, est finalement satisfait.
Oui, Alexandre Leduc, le critique solidaire en matière de travail, qui, lui, s'inquiétait beaucoup pour les exemptions, notamment les deux domaines qu'on a nommés, mais aussi pour les travaux légers. Tu sais, on aurait pu facilement dire, écoutez, on interdit le travail des moins de 14 ans, sauf pour les petits travaux, travaux légers. Ça aurait pu donner, évidemment, de l'exagération. Donc, pour l'instant, du moins du côté des solidaires, on est satisfait du projet de loi 19.
Merci, Simon.
Au revoir.
Et par ailleurs, on apprend aujourd'hui qu'aucune accusation ne sera portée contre la députée indépendante Marie-Louise Tardy. On va lui parler un petit peu plus tard dans le bulletin. Maintenant, les recherches dans l'immeuble incendié dans le Vieux-Montréal sont maintenant terminées. Les enquêteurs croient qu'il n'y a plus de dépouilles dans les décombres. Étienne, les deux dernières victimes ont donc été identifiées.
Oui, Charlie Lacroix et son ami Walid Belkala, les deux ont 18 ans. Charlie, on en avait entendu parler. Mmh. Ses proches disaient qu'elle était prisonnière de son Airbnb. Elle avait appelé le 911, mais il n'y avait pas de fenêtre pour sortir et la porte principale était bloquée. Aujourd'hui, donc, oui, les autorités ont affirmé que les recherches étaient maintenant terminées pour trouver des victimes. Bilan final, 22 occupants de l'immeuble, 7 sont décédés, 9 qui ont été blessés, dont certains gravement, et il y en a 6 qui s'en tirent sans blessure. Aujourd'hui, on a fait le point sur l'enquête aussi. On dit que pour l'instant, on ne veut pas évoquer, toujours pas de cause ou d'hypothèse possible pour ne pas nuire à l'enquête.
On avait émis pour la première fois vendredi cette conclusion à laquelle les enquêteurs en venaient, à savoir qu'il n'y avait plus de victimes dans les décombres. Avec l'utilisation des maîtres chiens, les chiens spécialisés dans la détection de victimes dans les décombres qui sont passés à maintes reprises samedi, dimanche et hier. Et ils n'ont détecté aucune trace, ils n'ont donné aucune alerte. Alors à cette étape-ci, on vous confirme que pour nous, il n'y a plus de victimes dans les décombres.
Nous, on a rencontré une survivante dont on n'avait pas entendu le récit encore, Carling Sioui, qui a loué avec son copain un Airbnb ici, qui a noté plusieurs anomalies, notamment des fenêtres qui étaient scellées. Finalement, ils ont pu en sortir malgré tout. Écoutez son récit.
Je suis en train de le regarder en ce moment, là, puis c'est comme... On était en mode « faut survivre », tu sais. « We can't die, we need to get out of here ». J'ai l'air d'être correct, mais je le suis pas. T'sais, mais on fait ce qu'on peut.
Conte-moi un peu cette nuit d'enfer. Là.
À 5h30 du matin, il y avait des alarmes qui sonnaient, mais c'était dans les autres chambres. Ou bien on pensait que c'était dans une chambre, que c'était peut-être un toaster ou quelque chose. Puis on s'est dit, bon, peut-être qu'on n'a pas à se lever. Mais même pas comme 15 secondes plus tard, on a entendu des cris, on a entendu des coups, comme si des choses tombaient ou se lançaient. Ils ouvrent la porte et tout de suite, il y avait plein de fumée qui rentrait dans la pièce. Puis tout le corridor était noir. Fait que là, on s'est dit, bon, obviously, on devrait pas aller par là parce qu'on a vu l'état des corridors avant. Quand on est retourné de l'autre côté de la chambre, on est allé à la fenêtre.
Carling Sioui dit avoir été prisonnière du brasier. Ils se sont réfugiés, elle et son copain, sur le rebord des fenêtres. Des minutes de grande angoisse en attendant les pompiers.
Nous, on était au deuxième. Donc là, c'est comme l'équivalent de quasiment 10 mètres. Fait que quand le feu a pogné, on pouvait pas sortir par la porte de corridor. Et nous, on est sortis, puis on était debout sur le petit truc de 30 cm. Finalement, les pompiers sont arrivés assez vite pour qu'on puisse descendre. Et comme j'ai dit après ça, tu sais, ça a même pas pris 2-3 minutes. On est descendu, on a traversé la rue, puis bam, genre tout le deuxième étage où on était... était en feu.
Carling Sioui dit que dès leur arrivée dans l'appartement, son copain et elle ont remarqué qu'il y avait des choses qui tournaient pas rond.
Quand on est rentré, déjà, j'ai vu que tous les escaliers étaient vraiment vieux. Il y avait des tapis, mais avec de la poussière partout. Il y avait des fils qui sortaient, mais comme... Tu sais, pas à 100 %, là, mais tu sais, ça paraissait que... On était un peu mal à l'aise déjà dans les corridors. Les fenêtres étaient à 100 % scellées. Et nous, on était chanceux parce qu'une des fenêtres était lousse, puis elle était juste tapée à la place de vraiment bien scellée. Donc, on a eu la chance de pouvoir juste la tirer. On était assez chanceux qu'une des fenêtres était mal scellée. Mais justement, je pense que dans le futur, là, il faudrait vraiment avoir soit des fenêtres qui ouvrent ou bien des corridors avec des sorties de feu qui sont beaucoup plus accessibles parce que, tu sais, on n'avait vraiment aucun autre choix. Et là, maintenant, c'est le temps de prendre l'action et de faire en sorte qu'on ne répète plus des situations comme celle-ci.
Et puis, la très grande majorité des annonces de logements sur la plateforme Airbnb ne respectait pas jusqu'à tout récemment les règles provinciales. C'est ce qu'on apprend dans un nouveau rapport présenté aujourd'hui, Louis-Philippe. Donc, ce sont des données dévoilées alors que l'entreprise, on le sait, est sur la sellette depuis l'incendie du Vieux-Montréal. Mm-hmm.
Voilà, le rapport qui a été publié par un regroupement d'associations, de comités de logement et locataires qui voulait démontrer la prépondérance, l'importance d'Airbnb un peu partout dans la province. Je te présente ce premier tableau. Le regroupement qui a recensé près de 30 000 logements alloués partout dans la province, dans près de 900 municipalités du Québec. Et ce qu'il y a d'inquiétant, de surprenant surtout, c'est qu'à la fin février, bien, Marie-Christine, il y avait seulement une annonce sur cinq, donc 21 % des annonces qui respectaient la réglementation provinciale où on oblige le propriétaire d'afficher ce fameux numéro de certification du gouvernement du Québec. Deuxième tableau intéressant, c'est de dire que Airbnb n'est pas qu'un phénomène montréalais. Il y a des milliers et des milliers d'annonces dans les régions administratives, la capitale nationale en passant par l'Outaouais. Donc, ces données ont été récoltées avant, tu l'as dit, l'incident, la tragédie dans le Vieux-Port de Montréal. Depuis, Airbnb a dit qu'on allait retirer à partir d'aujourd'hui toutes les annonces illégales non réglementaires. Mais pour le regroupement aujourd'hui, on a dit que ce n'est pas suffisant, ça ne s'attaque pas au problème de fond, c'est-à-dire qu'Airbnb, selon eux, contribue à la crise du logement. Donc, la demande était assez claire aujourd'hui, c'est-à-dire de bannir carrément la plateforme du Québec ou du moins de bannir la conversion d'immeubles locatifs en immeubles touristiques.
On a vu aussi de ce genre d'opération publique-là, là, de la part de la plateforme, de retirer des annonces dans certains endroits, mais quelques temps plus tard, il n'y avait pas moins d'annonces nécessairement illégales. Bien, elle seule, la plateforme Airbnb, est un facteur extrêmement aggravant de la pénurie de logement et de la crise du logement. C'est vraiment dommage au Québec là, qu'il ait fallu un drame pour qu'on s'ouvre un petit peu les yeux.
Et Louis-Philippe, est-ce que toutes les annonces non réglementaires ont été retirées?
Bien, on a fait l'expérience aujourd'hui, moi et certains collègues, la majorité des annonces... Par contre, quand on pousse la vérification un peu plus loin, on se rend compte qu'il y a certains faux numéros, des numéros de certification qui sont liés à d'autres hôteliers. Donc, clairement, au cours des prochains jours, il y aura des failles à régler par la plateforme, mais aussi par le gouvernement du Québec.
Merci, Louis-Philippe.
Plaisir.
Au retour, le chauffeur d'autobus qui a foncé sur une garderie de Laval doit subir d'autres évaluations. On vous donne tous les détails au retour. Au palais de justice de Laval, le chauffeur d'autobus qui a tué deux enfants après avoir foncé sur une garderie devra à nouveau comparaître le 26 avril. L'Institut Philippe Pinel a demandé au tribunal, en raison de la complexité du dossier, 30 jours supplémentaires pour évaluer l'état mental de l'accusé. Pierre-Ny Saint-Amand, je vous rappelle, fait face à 9 chefs d'accusation, dont 2 chefs de meurtre au premier degré et 1 chef de tentative de meurtre.
Ce qui est mentionné dans la lettre que l'Institut Philippe Pinel a fait parvenir au greffe ce matin, c'est indiqué là, la complexité du dossier, en quoi ça consiste pour eux, ce que ça veut dire malheureusement. Là, on n'a pas plus d'explications. Monsieur va demeurer à l'Institut Philippe Pinel pour poursuivre l'évaluation, là, permettre aux experts de pouvoir le rencontrer. Là. C'est une évaluation sur la responsabilité criminelle. Dans le fond, si on résume simplement, c'est de voir si ce monsieur-là, au moment des événements, était en mesure de différencier le bien du mal.
Salut Yves.
Salut Marie-Christine.
On va parler du budget de Mme Freeland déposé en fin d'après-midi. Comment tu qualifierais ce budget?
Je le qualifierais de néo-démocrate, ah. Marie-Christine. C'est drôle parce que c'est un peu ce que le père de Justin Trudeau, Pierre Elliott, a vécu au début des années 70 quand il était un gouvernement minoritaire, comme le gouvernement libéral actuel, avec l'appui du NPD. Mmh. Alors, pour avoir le soutien du NPD, bien, le gouvernement libéral doit... Il y a évidemment une entente, là, notamment les soins dentaires.
Les soins dentaires, oui.
Et donc, plusieurs postes de dépenses de programmes qui ont été exigés par le NPD pour maintenir son oui. appui à la Chambre des communes. Alors, d'un côté, ça peut plaire et ça va être intéressant de voir comment ça va être reçu dans l'électorat, Marie-Christine, mais... les conservateurs sont déjà prêts. Hier, on entendait Rodolphe Husny qui disait « La question, c'est les finances publiques. » Mais si on regarde les finances publiques, la dette augmente encore. Et il n'y a aucun plan, il n'y a pas d'horizon auquel on, où on voit
de retour à l'équilibre budgétaire.
Évidemment, pendant la pandémie... Ben oui. En partant, depuis 2015, depuis que ce gouvernement-là est en place, ils n'ont jamais été particulièrement rigoureux sur les dépenses ou les réductions de coûts dans l'appareil public. Mais là, ça va... on maintient le cap. Évidemment, pendant la COVID, il y a eu d'énormes dépenses, une baisse des revenus, moins d'activité économique. Le déficit était de 328 milliards juste pour cette année-là. Après, ça a diminué à 90. Et là, si on regardait l'énoncé économique de l'automne dernier, on semblait se diriger vers une forme d'équilibre. Mais non, on ouvre les vannes encore. Bon, alors, c'est clair, pour les conservateurs, ça va être le clou sur lequel ils vont taper. Ils ont déjà commencé à le faire même avant ça.
Trop de dépenses, c'est imprudent.
Exactement. Et c'est bien les nouveaux programmes, mais comment ils vont être financés? Évidemment, ce que le gouvernement libéral répond depuis qu'ils sont élus, depuis 2015, c'est de tous les pays du G7, on est celui dont la dette est la plus basse par rapport à la production économique. Mmh. OK, mais il faut quand même qu'il y ait un...
Est-ce que tu trouves ça irresponsable comme budget?
Bien, moi, je pense que si tu n'as pas de plan de retour à l'équilibre où tu mets des nouveaux programmes qui ne sont pas financés, bien, un jour ou l'autre, tu vas les financer par plus de déficit ou des taxes. Alors, c'est là que ça manque un peu de rigueur, et ça, c'est pas nouveau. Alors, on verra comment ça va réagir à partir de ça, mais c'est une question de survie aussi politique en ce moment.
Je comprends. Merci beaucoup, Yves. À demain.
À demain.
C'est l'heure de retrouver l'animateur des bulletins locaux. Bonsoir, Jean-Simon.
Bonsoir, Marie-Christine.
Alors, il y a des restaurateurs qui sont inquiets en ce moment de ne pas avoir assez d'employés ou de main-d'œuvre en raison de la nouvelle loi sur le travail des mineurs.
Oui, tout à fait, notamment les employés de service à la clientèle. Avec la pénurie de main-d'œuvre, on est allé chercher des employés très jeunes. Vous les avez vus dans les épiceries, des jeunes parfois peut-être plus jeunes que vos enfants qui font la caisse, qui vous servent votre burger dans un restaurant de restauration rapide. Et notamment à Québec, un restaurant qui est un casse-cou s'appelle Patate Plus, qui emploie des jeunes très jeunes. On vous a déjà parlé de Félix-Antoine, 12 ans, que vous voyez présentement. Qui est très bon d'ailleurs, mais qui ne pourra plus travailler suite au nouveau projet de loi.
Il va perdre son emploi.
Exact. Oui. Et pourtant, lui adore ça. Et la propriétaire, évidemment, est bien déçue. Je vous invite à l'écouter.
Ça nous enlève la main-d'œuvre qu'on a besoin. C'est pas tant qu'ils font beaucoup d'heures, c'est plus en fait que ces heures-là qu'ils nous donnent entre 8 et 10 heures par semaine sont importantes. Ça allège en fait la charge de travail pour les gens qui sont là à temps plein. C'est des jeunes qui sont motivés, qui viennent s'engager avec leurs parents puis qui ont vraiment une envie de travailler. Pourquoi pas mieux encadrer, de mettre des règlements puis de pratiquer en fait des bonnes pratiques en tant qu'employeur pour justement convenir à tout le monde puis gérer les attentes du jeune et de ses parents également. Nous, c'est ce qu'on fait puis ça fonctionne bien, on n'a pas de problème.
Et la question à se poser, si ces jeunes-là ne sont plus en arrière en train de faire des poussines, qui va les faire? On essaie de répondre à la question au Fil Québec dans quelques instants.
Merci beaucoup, Jean-Simon. Bon bulletin.
Au revoir. Bonne soirée.
On revient sur la mort de la policière Maureen Breaux hier soir à Louisville. Les citoyens de la localité sont évidemment sous le choc au lendemain de ces événements tragiques. Son meurtrier abattu lors de l'opération était connu dans la région en raison de ses problèmes de santé mentale. Notre journaliste Valérie Gendron a recueilli les réactions des gens sur place.
Le propriétaire est allé l'avertir plusieurs fois, mais comme il me dit hier, monsieur le maire, je fais quoi avec un gars comme ça? Est-ce que je le prends, je le mets dehors, je le poigne comme monsieur Perron? C'est la situation qu'on vit actuellement de beaucoup de gens. Non seulement Louisville, là. Puis en passant, les gens de Louisville, on est en sécurité.
Depuis plusieurs années, on en rencontre de plus en plus. Notre équipe rencontre de plus en plus des gens qui ont des problèmes de santé mentale ou qui vivent des périodes de psychose ou qui vivent... si on parle, exemple, de la dépression, beaucoup de gens qui font des dépressions, qui sont fragiles à ce niveau-là.
Le nouveau député de Québec solidaire de Saint-Henri-Sainte-Anne, Guillaume Clich-Rivard, a été assermenté aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Je vous rappelle qu'il a été élu le 13 mars dernier lors d'une élection partielle. Il remplace évidemment l'ancienne chef libérale Dominique Anglade qui a annoncé son départ en novembre dernier. Je le retrouve tout de suite à Québec. Guillaume Clich-Rivard, bonsoir.
Bonsoir, merci de l'invitation.
Oui, d'abord, félicitations à toute première journée comme député à l'Assemblée nationale. Dites-nous, quel sentiment vous habite aujourd'hui?
Écoutez, beaucoup de fébrilité. C'était quelque chose d'assez solennel, quelque chose bon, que j'attendais déjà depuis le soir de l'élection. On sait qu'on connaît quelques jours après notre date d'assermentation, mais les jours qui suivent sont quand même assez stressants et on a beaucoup de choses à faire. Là, aujourd'hui, il y avait l'assermentation, il y avait la période de questions, il y avait les réunions de caucus, puis évidemment, il reste le bureau de comté à mettre en place. Donc, il y a quand même beaucoup de pain sur la planche, mais tout ça commence officiellement aujourd'hui à l'Assemblée.
Oui, vous avez beaucoup de choses à faire. Chaque député a ses priorités. Dites-nous, qu'est-ce qui se retrouve en tête de votre liste?
Oui, moi, on m'a attitré les dossiers d'immigration, de francisation, d'intégration. On m'a aussi attitré le dossier de la justice et les dossiers de relations internationales et de francophonie. Donc, ce sont ces sujets-là qui vont habiter mes prochaines semaines, mes prochains mois, peut-être mes prochaines années. Je vais travailler là-dessus, évidemment, oui, avec un petit plus sur l'immigration, vous vous en doutez, mais ça va être mes sujets pour les prochains mois.
Oui, parce que vous êtes avocat de formation et avez créé un cabinet spécialisé en droit de l'immigration, il faut le préciser. Vous avez récemment mentionné que vous souhaitez enrichir le débat sur l'immigration à l'Assemblée nationale, mais de quelle manière allez-vous y parvenir?
Je vais amener des histoires, des vies, parler des conséquences, parler de... des conséquences des délais, par exemple, des effets sur les familles, d'une séparation ou la complexité que c'est pour une compagnie canadienne de faire venir des travailleurs étrangers temporaires puis de leur permettre d'accéder à la résidence. Je veux qu'on parle des défis de nos étudiants étrangers. Bref, je veux qu'on parle des gens derrière les chiffres et qu'on soit un petit peu plus au courant des conséquences et des difficultés que ces gens-là traversent.
J'aimerais ça vous entendre sur la fermeture du chemin Roxham. Est-ce que, selon vous, c'était la chose à faire?
Malheureusement, c'était une décision qui n'aurait pas dû être prise. Nous, ce qu'on a toujours dit, c'est que l'entente des pays tiers sûrs aurait dû être suspendue ou abolie, de manière à ce que les demandeurs d'asile puissent régulièrement demander l'entrée pour leur demande d'asile dans n'importe quel point d'entrée frontalier de toute la frontière canado-américaine et pas seulement envers le Québec. Là, ce qu'on va voir, malheureusement, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, c'est des centaines de petits chemins Roxham. Les gens vont trouver des moyens d'entrer, souvent dans des situations plus irrégulières, plus dangereuses, au profit des passeurs, malheureusement, et on va entendre des nouvelles un petit peu terribles et tristes, là, en fait, très terribles, où il y a des gens qui sont perdus en forêt, où il y a eu des engelures, où il va y avoir des drames, malheureusement, des catastrophes. Alors, on aurait mieux fait de régulariser le tout en permettant la demande d'asile dans tous les points d'entrée que de fermer le chemin Roxham.
Oui, mais à partir du moment où la fermeture a été annoncée, là, qu'est-ce qui devrait être fait pour aider ces gens-là?
Bien, on continue de dire que l'entente des pays tiers sûrs doit être abolie. En fait, c'est un protocole additionnel à l'entente. La Cour suprême, cette année, va prononcer un jugement sur la légalité de l'entente. Est-ce que ça va passer le test des tribunaux ou pas? Ça, c'est une question. Mais l'idée demeure, il faut suspendre, il faut abolir l'entente des pays tiers pour que les demandeurs puissent régulièrement, en toute dignité, faire leur demande dans n'importe quel point d'entrée canadien et que le Québec ne soit pas le seul à avoir ces entrées-là pour que l'ensemble de la pression soit diluée sur l'ensemble des autres provinces canadiennes et que ça soit mieux réparti, mais qu'on ne tourne pas le dos aux gens qui sont en quête de protection et qu'on ne favorise pas le passage clandestin et les passeurs clandestins, malheureusement.
On va surveiller tout ça. Guillaume Clich-Rivard, bon mandat à vous. Merci d'avoir été avec nous ce soir.
Merci, c'est un grand plaisir.
On poursuit ce soir notre incursion en milieu hospitalier d'une importance capitale à l'urgence. L'infirmière doit faire face à toutes sortes de situations en gardant évidemment son sang-froid. Accidenté de la route, enfants gravement blessés, familles endeuillées. Elle doit mettre de côté ses émotions et être alerte en tout temps. Voici ce qu'a préparé notre vidéaste Denis Gervais.
Noémie Charron, infirmière clinicienne. Bonjour. Comment ça va?
Oui.
Avez-vous de la douleur?
C'est sûr que le fait d'être à l'urgence, nous, on a vraiment une grosse charge de travail. En fait, nous, on est comme la rétention de l'hôpital. On a comme des... Tu sais, si, mettons, les patients ne montent pas à l'étage, qui sont hospitalisés puis qui ne montent pas, bien, c'est sûr que nous, on a une plus grosse surcharge de travail. Ça fait en sorte qu'on a beaucoup de patients ici. On ne réussit pas à pouvoir combler tous les besoins des patients. Le métier d'infirmière, c'est le plus beau métier du monde. Il faut être très dévoué, passionné par le métier. C'est une vocation, là, littéralement. Les gens, tu sais, nous disent souvent qu'il n'y a pas grand monde qui pourrait réussir à faire ça. Tu sais, on touche à tout, là. Tu sais, ce serait un très beau métier. C'est sûr que c'est difficile. On a des conditions qui ne sont pas toujours favorables. Mais, tu sais, comme tous les métiers, il y a des pour, il y a des contre.
Ça va, là. On prend soin de vous. OK.
c'est un métier que j'aimerais ça faire quand même longtemps. En fait, avec l'adrénaline qu'on a ici à l'urgence, ça me permet vraiment de me sentir bien à ma place. C'est pas à toutes les places qu'on va avoir de l'adrénaline comme ça. Là, les patients, des fois, qui arrivent en arrêt cardio-respiratoire, ben c'est super. Il y a gros de l'adrénaline. Là, fait que j'adore ce bout de mon métier-là. Là. En fait, on voit de toute la clientèle ici, on voit autant de la pédiatrie que des adultes ou de la gériatrie même. Fait que ça fait en sorte qu'on a une belle variété. Fait que oui, c'est une place que j'aimerais continuer d'être pendant un petit bout de temps, en tout cas. Il y a beaucoup de gens qui font du temps supplémentaire volontaire, ce qui fait en sorte que le temps supplémentaire obligatoire est moins présent. En commençant le métier, on était déjà au courant qu'on allait avoir du temps supplémentaire obligatoire. C'est sûr qu'avec la COVID, ça l'a beaucoup augmenté. Fait que c'est normal que ça nous irrite un petit peu. On a quand même des familles, on a des amis à l'extérieur, on a une vie. Là. Puis les pressions sont là, 201 sur 118. Qu'est-ce qui m'allume? Beaucoup de choses, en fait. Le fait que les patients qui apprécient, en fait, mes soins. Le fait qu'on est tous ensemble, t'sais, notre équipe, on s'entraide énormément. Que c'est vraiment comme un travail d'équipe, sinon on serait pas capable de faire notre travail si on était juste toute seule. Là. Quand il y a des situations critiques là, qui arrivent, c'est sûr qu'on vérifie à 2-3 infirmières pour s'assurer qu'il n'y ait pas de risque d'erreur en fait, là, qui se fasse. Tu te sens super accompli là, quand tu finis ta journée parce que les patients ils te le disent, ah, merci, tu as été vraiment d'une aide précieuse pour moi durant mon hospitalisation. En fait, on aimerait ça tout le temps donner le meilleur aux patients. Mais c'est ça, avec la charge de travail qu'on a, c'est sûr que parfois, on ne réussit pas à donner tout ce qu'on pourrait donner, là, ce que nous, on voudrait, en fait.
On vient d'apprendre que la députée de La Violette-Saint-Maurice, Marie-Louise Tardy, réintègre le caucus de la CAQ. Un peu plus tôt aujourd'hui, le DPCP a annoncé qu'il ne déposait aucune accusation contre l'élu. Le directeur des poursuites criminelles et pénales a mené une enquête de 3 semaines à la suite de menaces alléguées à l'endroit d'une ex-employée en pleine salle d'audience. Marie-Louise Tardy a dû se retirer du caucus de la CAQ, c'était le 7 mars dernier. Marie-Louise Tardy devait nous accorder une entrevue, mais elle vient tout juste de la décliner parce qu'elle réintègre le caucus de la CAQ. Alors que la Ville de Montréal est montrée du doigt pour différents cas de discrimination allégués au sein de son organisation, le bureau de la commissaire à la lutte contre le racisme a rapporté avoir eu à traiter une trentaine de plaintes au cours de la dernière année. La Ville compte désormais mettre sur pied un guichet unique pour ses employés qui souhaitent dénoncer. Tous les détails devraient être annoncés d'ici l'été.
L'objectif de ce guichet-là, ce sera d'offrir un accompagnement qui est humain et personnalisé aux personnes qui souhaitent porter plainte et de s'assurer du suivi qui se fait auprès des instances. Nos services seront accompagnés par un comité externe qui va avoir pour mandat de valider que ce nouveau système de plainte qu'on propose offre aux victimes une protection effective de leurs droits et une résolution efficace des situations qui ont mené aux plaintes.
Les Alouettes de Montréal ont un nouveau président et chef de la direction. Mark Whitman est de retour avec l'équipe qu'il a dirigée de 2013 à 2016. Il va entrer en fonction donc le 11 avril prochain. M. Whitman possède une expérience de 28 ans dans le sport professionnel. Il est passé 20 ans au sein des Alouettes. Il dirigeait depuis 2020 les Lions de Trois-Rivières. Bon, c'est le temps des sucres, hein, et les producteurs acéricoles sont à pied d'œuvre en ce moment dans les érablières. Le dossier de l'exploitation des terres publiques stagne. Pour assurer la croissance de leur industrie, les producteurs veulent augmenter la superficie des terres publiques sur lesquelles ils peuvent faire des entailles, mais le gouvernement tarde à répondre à leurs demandes, comme nous l'explique Fanny Lachance-Paquet.
Il y a une lutte en ce moment pour les terres publiques du Québec. On veut se les partager entre, finalement, l'industrie du bois et les producteurs acéricoles, c'est ça?
Exactement. La question qui se pose présentement, c'est qu'est-ce qu'on veut faire avec nos forêts publiques au Québec? Les producteurs et productrices acéricoles produisent à peu près 20 % de l'ensemble du sirop d'érable en forêt publique, là, les terres de la Couronne, et on aimerait passer ça à 30 % Malheureusement, il y a de la résistance auprès du gouvernement du Québec qui ne semble pas partager la même priorité que nous autres pour protéger les érables en forêt publique.
La prédation forestière n'a jamais été aussi forte qu'actuellement envers nos érablières publiques en Estrie, sous le gouvernement Legault.
C'est quoi les avantages des terres publiques, justement? Pourquoi les producteurs aiment mieux s'établir là-dessus versus des terres privées?
Bien, c'est la proximité des infrastructures, des réseaux routiers, des lignes électriques. Mais c'est intéressant parce qu'il reste très peu de place en privé, à moins d'avoir hérité d'un grand-père pour un jeune qui sort de l'école. Avoir accès aux terres publiques, bien, c'est une pierre d'assise pour partir sa vie. Là.
Les terres privées sont tellement rendues à un prix que c'est pas abordable pour des jeunes comme nous autres qui veulent commencer. Puis, dans le fond, les terres publiques, c'est comme notre seul accès qu'on pourrait pouvoir agrandir et avoir la nôtre plus tard. Là.
Dans les dernières années, là, on a connu deux années à des hausses d'exportation de 20 %. Ce qui veut dire que ça va tellement bien dans le sirop qu'on a besoin de nouvelles superficies et on n'a pas le choix de se tourner vers les forêts publiques.
Non seulement la production de sirop d'érable est une activité économique vraiment importante dans les régions, on parle d'une contribution de 1 milliard de dollars au PIB, 12 500 emplois à temps plein, mais c'est vrai que ça a une contribution aussi écologique. Grosso modo, à chaque année, on capte 11 fois plus de carbone dans les érablières en production que la production de sirop d'érable.
Après Cahiers Bûcher, eux autres, ils viennent une année. Moi, je vais être 10 ans dans le même secteur avec ce qu'ils vont avoir fait comme travaux et avec la mortalité qui va arriver après par les travaux.
Puis vous avez l'impression qu'il n'y a pas d'écoute en ce moment du ministère?
Aucune. Au début, on avait eu un petit peu de l'écoute. Puis là, depuis que ça a changé de ministre, là, il n'y a plus de son, plus d'image, il n'y a plus personne qui nous appelle. On essaie de laisser des messages, personne. Puis là, ça ne débloque pas. On n'a pas d'écoute partout.
Difficile pour nous aussi d'avoir des informations. La ministre des Ressources naturelles et des Forêts du Québec, Maïté Blanchette-Vézina, n'a pas répondu à nos questions concernant sa vision du partage des terres publiques ni concernant la date de parution de son plan directeur. Elle a aussi refusé notre demande d'entrevue.
Ce matin, à la Patrie, je demande l'intervention de François Legault. L'attente a assez duré, là. On veut un plan de match.
Oh, on va se battre corps et âme. On est quasiment prêt d'aller faire de la prison pour le fun.
À ce point-là?
Ah oui, à ce point-là. À ce point-là, il faut quasiment se battre pour notre génération future.
On s'en va dans le coin de Québec maintenant. Les producteurs agricoles de l'île d'Orléans sont en colère parce que, comme la construction du nouveau pont a été reportée à 2028, ils sont obligés de respecter les limites de charge sur le vieux pont. Ça veut dire donc qu'ils doivent faire plus de voyages pour transporter leurs marchandises et ça, bien, ça leur coûte plus cher. Alors, l'UPA demande de l'aide financière au gouvernement jusqu'à la construction du nouveau pont.
Notre étude qui est sortie en mars 2021 montrait que si on avait un nouveau pont en 2027, les producteurs en avaient pour 1,5 million de dollars supplémentaires juste en frais de transport. Les délais avec le nouveau pont, puis la limite de charge, qu'on comprend bien là, qu'il y en a une limite de charge. Là. Mais là, ce qu'on a appris hier, c'est que le nouveau pont, bien, il va être retardé jusqu'en l'été peut-être 2028. Fait que ça, c'est encore des coûts supplémentaires que les producteurs doivent eux-mêmes payer.
On parlait maintenant du chantier maritime Davy qui veut prendre de l'expansion et fait de l'œil à un chantier naval finlandais. Le chantier Davy a déposé une offre d'achat pour le chantier Helsinki Shipyard Oy, qui est spécialisé dans la construction de brise-glace. Je vous rappelle que Davy attend toujours le feu vert d'Ottawa pour un contrat qui va lui permettre de construire 6 brise-glace pour le gouvernement du Canada. Michel, le gouvernement français suit l'exemple du Canada puis demande à ses fonctionnaires de retirer l'application TikTok.
Mais pas seulement TikTok. On parle aussi de Twitter, Instagram, les applications récréatives comme Candy Crush, Netflix. Tout ça. Puis on n'a même pas encore la liste complète. Là. Elle n'a pas encore été publiée. La France croit que ces applications sont risquées là, pour la protection des données. On parle de 2,5 millions de fonctionnaires là, qui vont devoir se plier à cette obligation-là. On rappelle l'application TikTok est dans le collimateur des autorités de plusieurs pays, notamment
le Canada. C'est plus grand-chose après. Reste l'agenda, puis les textos, c'est tout. Ce soir, au débatteur, c'est question de revendre des billets de spectacle.
Oui, moins d'une semaine après la mise en vente des passes puis des billets là, pour le Festival d'été de Québec, on constate que le phénomène de la revente à fort prix est déjà pas mal actif sur les réseaux sociaux. Une passe là, de 11 jours à 140 $, ça se vend 2 à 4 fois plus cher. C'est illégal. Alors, notre question ce soir, est-ce qu'on devrait interdire les sites de revente de billets de spectacle? On va en débattre avec notre collègue Meeker, également Dominique Vallière, qui sera avec nous ce soir, Catherine Beauchamp, et on aura la directrice générale de la Disque, Eve Paré, qui sera notre invitée ce soir.
Bonne émission, Michel.
Merci beaucoup. Bonne soirée.
Excellente soirée à notre antenne. On se retrouve demain, 17 h.